VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 15h à Brazzaville. Bonsoir, bienvenue. De nouveaux affrontements ont eu lieu ce mercredi à Brazzaville au lendemain de un meurtrier dans la capitale congolaise en lien avec le référendum constitutionnel de dimanche qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter à la présidentielle en 2016. Sur l'avenue de la base, près de l'aéroport international Maya, dans l'ouest de Brazzaville, des groupes de quelques dizaines de jeunes ont tenté de reprendre les barricades dressées la veille et non encore dégagées par les forces de l'ordre, qui ont tiré à plusieurs reprises des grenades lacrymogènes. Selon l'AFP, les jeunes harcelaient policiers et militaires déployés sur place, jouant au chat et à la souris et en se repliant dans les rues adjacentes lorsqu'ils étaient débordés pour revenir à la première occasion sur l'avenue où l'on pouvait voir des voitures calcinées ou caillassées hier. On ignorait à la mi-journée si ces nouveaux heurts avaient fait des blessés. Depuis l'annonce début octobre du référendum de dimanche, deux coalitions de l'opposition dénoncent comme un coup d'État constitutionnel cette consultation sur un projet de nouvelle constitution faisant sauter les deux verrous empêchant M. Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat en 2016. Je vous propose de retrouver à Brazzaville notre correspondant Ngoula Ngoussou.
Il y a une ligne rouge qui est tracée, donc les quartiers de Bakongo, Makelekele, Mfilou, Madibou, traditionnellement acquis à l'opposition. On observe toujours une certaine ébullition, les populations civiles qui sont en train d'équiper ces quartiers pour rejoindre les quartiers nord où l'ambiance est tout à fait apaisée. Et ce matin, dans les points chauds, les jeunes avaient repris les barricades, avaient commencé à remettre les barricades et brûler quelques pneus. Et finalement, la police intervient et essaye de démanteler ces barricades, et souvent avec beaucoup de violence et beaucoup de résistance également de la part de la jeunesse. Ce qui fait qu'il y a certains troubles qui sont observés dans les quartiers de Bakongo et de Filou, notamment au niveau de la base aérienne. Jusqu'alors, il n'y a pas eu de déclaration de la part de l'opposition, mais elle prévoit de se réunir à 13h, donc 12h temps universel. Je crois qu'à cette occasion, au cours d'une conférence de presse, l'opposition fera donc une déclaration. Mais hier soir déjà, le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, a fait une déclaration faisant un premier bilan des manifestations qu'il y a eu à Brazzaville et à Pointe-Noire. Donc les autorités parlent de 4 morts et d'une dizaine de blessés. À Brazzaville et à Pointe-Noire, un bilan naturellement que conteste l'opposition. Et le ministre de l'Intérieur dit que le processus électoral tel qu'il est engagé sera respecté. Le ministre de l'Intérieur a appelé les populations pour se rendre massivement aux urnes le dimanche, et donc pour se prononcer sur la constitution qui a été donc programmée pour le 25 octobre prochain.
Voilà le correspondant de VOA Afrique au Congo, au Brazzaville, Ngoula Ngoussou, qui faisait donc le point de la situation à Brazzaville, la capitale. Que propose donc la société civile pour réduire les tensions dans le pays? La réponse du militant des droits de l'homme, Luamba Moké de Brazzaville, toujours au micro de Timothée de Nangmaï.
Notre point de vue, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment la négociation entre les deux camps, parce que si les deux camps gardent leur position, ça ne sera pas une situation heureuse. Et nous pensons bien qu'il faut qu'il y ait une médiation, soit une médiation sur le plan national, sur le plan régional, et pourquoi pas sur le plan international.
Voilà, Luamba Moké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral au Congo, au Brazzaville. Procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré à Dakar, au Sénégal. Les dernières plaidoiries qui devaient se tenir fin octobre vont être décalées. Abdou Chakou Aboud.
Le calendrier initial du procès de l'ancien homme fort de Tchad devant un tribunal spécial africain à Dakar ne sera pas respecté, a appris l'AFP d'une source au sein de cette juridiction.
Les toutes dernières plaidoiries qui devaient avoir lieu dans quelques jours sont repoussés à une date ultérieure. Impossible pour lors de savoir si ce nouveau délai va être de quelques semaines ou quelques mois. Hissène Habré, accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de torture durant sa présidence au Tchad, comparaît depuis le 20 juillet devant les chambres africaines extraordinaires. tribunal spécial créé en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine qu'il ne reconnaît pas. Il refuse de s'exprimer et de se défendre devant cette juridiction.
Hissène Abré encourt entre 30 ans de prison ferme et les travaux forcés à perpétuité.
Une commission d'enquête tchadienne a estimé que la répression durant sa présidence a fait 40 000 morts.
Au Burkina Faso, la justice militaire a lancé un mandat d'arrêt international contre Fatou Diendéré, né Diallo, l'épouse du général Gilbert Diendéré, le chef du putsch manqué du 17 septembre au Burkina Faso. Élu à l'Assemblée nationale en 2002, Madame Diendéré y a été réélue jusqu'en 2012 pour le compte du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Sa candidature législative avait été rejetée par le Conseil constitutionnel, au même titre que celle d'une cinquantaine de ses camarades de parti, parce qu'elle avait soutenu la réforme de la Constitution qui devait permettre à M. Compaoré de briguer un nouveau mandat. Le général Diendéré est poursuivi, rappelons-le, pour 11 chefs d'inculpation, dont celui de crimes contre l'humanité. L'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Bernardino Léon, a affirmé aujourd'hui que le processus de négociation allait se poursuivre malgré le rejet du plan de paix de l'ONU par plusieurs parties libyennes, car il n'y a pas d'autre alternative pour ce pays en proie au chaos. Les propositions onusiennes qui comprennent la désignation d'un premier ministre ont été rejetés par le Parlement dit de Tripoli, instance soutenue par des milices, dont certaines islamistes. Et lundi soir, la majorité du Parlement internationalement reconnu de Tobrouk, dans l'est du pays, a à son tour refusé sans vote le contenu de l'accord. Le Conseil de sécurité de l'ONU a menacé samedi de sanctionner les personnes qui entravent le processus.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Et on revient aux États-Unis, les drones au secours des sapeurs-pompiers dans la lutte contre les incendies. Voilà une idée qui est en train de faire son chemin. Plusieurs responsables gouvernementaux américains ont assisté ce mois à un vol de démonstration de l'hélicoptère téléguidé K-Max. Lionel Gaïma.
Le K-Max est le plus grand aéronef téléguidé à être testé dans la lutte contre les incendies cette année ici aux États-Unis. Déployé contre un feu de forêt dans l'État de l'Idaho, l'appareil a procédé à des largages d'eau et à l'acheminement des diverses ressources dans cette zone montagneuse. Tous ces déplacements étaient télécommandés à partir d'une station au sol. Un pilote se trouvait tout de même à bord pour reprendre les choses en main en cas de besoin. L'hélicoptère K-Max peut voler dans l'obscurité à travers une épaisse fumée, des conditions qui clouent habituellement au sol les avions de lutte contre les incendies, a expliqué Bob Mananski, vice-président de Kaman Aerospace, la compagnie produisant le K-Max. Nous pouvons combattre le feu 24 heures sur 24, l'appareil étant téléguidé avec option pilotage. C'est un avantage et vous pouvez larguer de l'eau sur les feux 14 à 15 heures de plus qu'avec l'appareil piloté. Selon Mananski, le corps de marine a utilisé deux hélicoptères K-Max et les commandés en Afghanistan pour réapprovisionner des postes de combat éloignés en pleine nuit. Ces appareils ont remplacé les dangereux convois routiers, a souligné le vice-président de Kaman Aerospace. Nous avons fait quelques petits ajustements pour les rendre très sûrs. Lorsque nous les avions introduits en Afghanistan, les soldats ne voulaient pas s'approcher de ces appareils lorsqu'ils étaient en vol stationnaire, craignant qu'ils ne leur tombent dessus. Mais vers la fin de la démonstration, plusieurs d'entre eux se précipitaient pour accrocher avec beaucoup de confiance des charges à ces appareils. D'un coût de 7 millions de dollars, l'hélicoptère téléguidé K-Max peut soulever jusqu'à 2700 kg de charge, soit l'équivalent de son propre poids. Pour Art Hinneman, directeur adjoint de l'aviation au service forestier américain, cet appareil a beaucoup de potentiel. C'est fascinant ce qu'il peut faire. La technologie est là. Pour nous, la capacité d'opérer sans risquer la vie d'un pilote dans des conditions de mauvaise visibilité, par mauvais temps, alors que les gens au sol ont besoin d'aide, c'est monumental. À quand le déploiement effectif de ces drones contre les incendies? De l'avis de Bob Kirk-Curtis, responsable du programme aérien au ministère américain de l'Intérieur, il faudra encore quelques années avant d'intégrer ces appareils à l'ensemble des activités liées à la lutte contre les feux de brousse.
Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre contact sur voafrique.com. Jean-Roger Billon, à tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.